La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Le mot Big Bang, il résonne dans nos têtes comme quelque chose de tout à fait particulier entre fantasme, réalité, fascination. Les origines de l'univers nous entraînent dans les vertiges de l'infini avant de nous perdre justement dans les confins du cosmos. Il n'est pas inutile de clarifier les questions auxquelles prétend répondre justement la théorie de l'univers. Et c'est le travail auquel s'est attelé l'astrophysicien Jean-Philippe Usan qui publie chez Flammarion Big Bang, un ouvrage pour comprendre l'univers avec ce modèle constitué de plusieurs couches théoriques. C'est le dossier dans un instant de la tête au carré. Avec vos messages, toutes vos questions, vous nous rejoignez dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Caroline Tour, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui à la une de la science, les nouvelles fouilles à Pompéi.
Oui Mathieu, c'est la première fois depuis 70 ans que des fouilles d'une telle ampleur sont réalisées dans la ville ensevelie sous les cendres du Vésuve. Et les découvertes, elles sont simplement exceptionnelles.
Et on s'y rend avec vous dans quelques instants. Fanny Bouillon réalise cette tête au carré préparée aujourd'hui par Sophie Vaux.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Jean-Philippe Usan.
Bonjour Mathieu. Bonjour.
Bienvenue. À tous. Big Bang, comprendre l'univers depuis ici et maintenant. C'est cet ouvrage donc qui paraît chez Flammarion. Et vous dites dès les premières lignes que si on s'amuse à interroger des physiciens ou des astrophysiciens en leur demandant ce qu'est exactement le Big Bang, on n'aura jamais la même réponse.
Oui, c'est un peu le cas de toutes les théories scientifiques, parce que ces théories se construisent dans le temps, ce qui fait que chacun en a une version un petit peu différente. Alors, il n'y a aucune incohérence là-dessus, mais chacun, dans sa spécificité de son travail quotidien, qu'il soit observateur ou théoricien, ne va pas utiliser exactement la même formulation de la théorie. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que nous, on a conscience en fait de toute cette charge historique qu'il peut y avoir quand on parle de certaines idées, et souvent... Entre nous, on fait pas les détails, on sait très bien de quoi parle l'autre. Mmh. Et la difficulté, c'est, j'insiste beaucoup sur ça dans ce livre, c'est qu'est-ce qui se passe quand on parle au public? Quel savoir est-ce que l'on peut transmettre au public? Et à quel moment est-ce que ce modèle ne dit rien? À quel moment est-ce que on a des affirmations sur lesquelles toute une communauté est en accord?
Eh bien, on va étudier avec vous ces strates, justement, Merci. Théoriques autour du Big Bang. Et puis, vous répondrez bien sûr aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission.
Il y aura bientôt 2000 ans, en quelques heures, une éruption terrifiante unit dans la mort les citoyens désunis. Et longtemps, la nature effaça leurs traces. On retrouva la malheureuse cité telle qu'elle avait été surprise par la mort. Pompéi, presque entière, était rendue à la lumière.
Voilà, extrait d'un film sorti en 1950. Ça s'appelle Dernier jour de Pompéi de Marcel L'Herbier pour parler aujourd'hui donc de ces découvertes exceptionnelles sur le site de Pompéi. C'est aujourd'hui à la une de la science. Caroline Tourbe, on en parle avec votre invité.
Oui, Mathieu, aujourd'hui nous sommes avec le professeur Massimo Ossana. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Pompéi et vous dirigez le chantier de fouilles, ce nouveau chantier de fouilles. Alors, à l'origine, il a été mis en place pour permettre une meilleure conservation de Pompéi, mais ça vous a aussi donné l'occasion d'explorer ou de réexplorer de grandes zones de la ville encore cachées sous les cendres. Vous avez fait des découvertes exceptionnelles, notamment, vous avez pu soulever l'énigme de l'origine, de la date exacte de l'éruption du Vésuve. Vous avez trouvé un graffiti, c'est ça qui
Oui, oui. Il faut commencer à dire que ça, c'est un projet européen, c'est la communauté européenne qui a financé ce projet, ça c'est très, très important, et c'est un projet de conservation. Alors là, on était en train de stabiliser les fronts des fouilles, que c'est la zone très dangereuse où sont passés tous l'effondrement des murs dans le passé. Alors c'est là qu'a commencé à faire ce très grand projet, 3 km de travaux sur ce front des fouilles. Et évidemment, à Pompéi, si on commence à faire des fouilles, les découvertes sont toujours étonnantes. Et c'est pour ça qu'il y a eu la possibilité de découvrir un morceau de Pompéi intact et des choses que...
On n'avait jamais vu.
On n'avait jamais vu et va changer l'histoire des Pompéi.
Et ce graffiti, justement, vous pouvez nous dire un peu ce que c'est?
Oui, ça, c'est une chose très intéressante parce qu'on est tombé dans une pièce qui était
dans
le travail, oui, des renouvellements. Il y avait d'ouvriers partout, sûrement dans cette maison. Et là, les ouvriers ont commencé à faire des cris sur les murs. Et il y a aussi cet écrit à charbon. Alors, ça signifie quelque chose de très éphémère. Pas pas destiné à durer. Alors, il n'y a pas l'année. Il y a seulement la date qui est 6 jours avant le calendrier de novembre. Ça, c'est le 17 octobre. Et mais ça, c'est dans la pièce en cours de travail. Alors, ça signifie que l'inscription, c'est de l'année de l'éruption.
Parce qu'on avait actuellement l'idée que peut-être ça s'était passé au mois d'août.
Oui, non, c'était la tradition, octobre. C'était le mois d'août. Mais maintenant, ça, c'est très important parce que on va clarifier des choses très bizarres à Pompéi. Par exemple, l'existence des fruits qui sont pas de l'été et qui avaient toujours déjà des siècles avant avait déjà fait penser que quelque chose.
Ça s'était peut-être passé plus tard que le
oui,
mois d'août.
Oui, c'est ça.
Et alors, ce graffiti qui donne la date d'octobre, ce n'est pas la seule découverte. Il y a aussi des graffitis avec des slogans électoraux dans la même rue.
Non, c'est sympa parce qu'il y a des graffitis aussi un peu pornographiques, on peut dire.
Ah, si?
Oui, parce que ça c'était normal. La moralité était très différente de nous. Alors, sous la porte de cette maison, il y a des choses qui sont écrites, divertissement, avec des je ne peux pas dire qu'est-ce qui est écrit maintenant.
Il y a des scènes aussi, on voit des scènes dessinées.
Évidemment,
il y en a beaucoup à Pompéi.
Il y a des scènes, mais il y a aussi des inscriptions officielles. Ce sont des slogans politiques. Et dans la rue, et c'est plein d'inscriptions. Et il y a aussi une inscription qui dit « Les voisins, alors tous les voisins de cet endroit, demandent de voter pour cette candidate qui est très bon. »
Ah oui, ouais. Déjà à l'époque.
Oui,
ça indique beaucoup de choses sur la vie dans le quartier.
La
vie quotidienne.
Ça, c'est incroyable à Pompéi. Tu peux tomber sur la vie quotidienne de cette personne et tu peux reconstruire aussi la biographie des personnes. Aussi avec les analyses d'ADN qu'on va commencer sur les victimes, on peut découvrir des choses incroyables. Et en passé, on n'avait pas l'idée de faire cette chose.
Pardonnez-moi, ça veut dire que de l'ADN a été conservé
oui,
encore en bon état.
Ça, c'est incroyable.
Ah bon,
on a déjà fait des expérimentations et c'est possible.
Alors, ça a résisté à la chaleur de la lave et aux poussières qui sont tombées.
Oui, oui. Et c'est ça que c'est. On a commencé un projet total d'analyse d'ADN sur toutes les victimes.
Sur toute la population.
Incroyable. Oui.
Et donc, vous allez pouvoir avoir des éléments sur les familles qui étaient présentes et encore une fois. Sur
exactement, et aussi la provenance de cette personne, parce que ça, c'est une ville cosmopolite avec des connectivités méditerranéennes. Alors ça sera très, très intéressant pour comprendre la société de Pompéi et de l'Italien.
Et justement, à propos de la vie quotidienne, on a aussi découvert lors de ces fouilles des squelettes de personnes qui ont été surpris par l'éruption. Il y a une personne qui essayait de s'échapper par un balcon, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'était la première victime qu'on a trouvée. Mais maintenant, on est en train de fouiller la pièce à côté de l'inscription, de la pièce avec l'inscription. Et là, il y a 5 victimes. Ce sont des femmes et des enfants. Et je pense que c'est la famille qui est restée dans la maison, dans l'unique pièce qui était pas remplie de pierres ponces.
D'accord.
Alors c'est vraiment tragique, mais avec cette famille, on va prendre des documentations incroyables sur la société ancienne.
Massimo Sana, c'est très émouvant parce que justement, vous nous avez apporté un morceau de pierre ponce.
Oui.
Donc du Vésuve.
Hein. Oui, c'est du Vésuve, c'est la pierre ponce de Pompéi.
Et donc qui date de l'époque. Oui. Voilà, on l'a là entre les mains, donc c'est un vrai bout d'histoire. C'est presque comme une météorite un petit peu, Jean-Philippe Usan.
C'est un fragment venu soit du confin du temps, soit du confin de l'espace. Donc à chaque fois, ces petites pierres nous apprennent beaucoup de choses.
Oui. Et très légère, mais
c'est vrai.
Dangereuse.
Ouais. on sait alors que c'est vous avez prévu de fouiller cette zone jusque février 2019, mais pour le grand public, rendez-vous quand ? Alors, quand est-ce qu'on pourra...
Je pense, après, il faut commencer toutes les restaurations et de mettre des couvertures sur cette maison. Et l'idée, c'est d'ouvrir au public à la fin de l'année prochaine.
D'accord. Et à ce moment-là, le public va pouvoir revoir ces objets. Ce sur quoi vous insistez aussi, c'est que de plus en plus, vous présentez les objets en situation.
Exactement.
L'idée de comprendre.
Il faut contextualiser et que c'est la chose la plus importante pour Pompéi parce que c'est seulement là que tu peux voir la vie quotidienne des Pompéiennes. Alors, on va muséaliser cette pièce, cette maison avec les objets qu'on a trouvés et sont beaucoup.
Est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur place à Pompéi ?
Évidemment, mais il faut aussi laisser pour les prochaines générations.
Ouais, donc il y a encore beaucoup d'histoires à remonter à la surface encore.
Évidemment.
Hein. Ouais. Merci beaucoup, professeur Massimo Osana. Vous êtes donc le directeur de conservation donc de Pompéi, de ce site extraordinaire. Merci d'être venu aujourd'hui à la Une de la Science, nous en parler. Caroline, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les champs magnétiques auraient-ils un effet toxique sur les cellules? C'est en tous les cas ce que suggère une étude menée par une équipe de la Sorbonne Université. Les chercheurs ont étudié des cellules de drosophile, une petite mouche de laboratoire. Ils les ont soumises à des ondes comparables à celles émises par les casques d'électromagnétothérapie. Ils ont alors découvert que les ondes agissent sur une protéine, le cryptochrome, au cœur d'un mécanisme qui peut être toxique pour la cellule. Les auteurs estiment que leurs résultats pointent l'existence d'une action potentiel des champs magnétiques induits par les appareils électriques qui nous entourent, mais ils ne permettent absolument pas de conclure pour l'instant que ces appareils ont un effet sur notre santé. Sujet hautement polémique à suivre. Un nouveau fossile permet justement de préciser les contours de la Pangée, le supercontinent ancestral. Ce proto-reptile vieux de 250 millions d'années a été découvert au nord du Laos, une région qui intéresse tout particulièrement les géologues, car si la forme globale de la Pangée est relativement bien connue, certains détails leur échappent encore, et notamment la position des toutes petites plaques qui forment aujourd'hui l'Asie du Sud-Est. Le fossile découvert au Laos est baptisé Laosuchus nagua et long d'1,50 m à 2 m, et son allure rappelle étrangement celle d'un crocodile. Ce proto-reptile terrestre présente le grand intérêt d'avoir des cousins fossiles retrouvés en Chine et en Russie. Les petites plaques d'Asie du Sud-Est ne devaient donc pas former des îlots dispersés, mais plutôt une sorte de péninsule pour permettre justement les échanges entre populations par voie terrestre. Et puis l'énigme du vol des graines de pissenlit peut être enfin résolue. Comment font les petites aigrettes hérissées de poils blancs pour voler sur plus d'un kilomètre alors qu'a priori elles ne sont pas équipées pour cela? Eh bien, elles s'apparentent plus à une sorte de squelette de parapluie qu'à un bon vieux parachute. Et c'est là toute l'astuce. Des chercheurs écossais ont filmé sous toutes les coutures leur vol dans une soufflerie. Ils ont découvert que les mouvements de l'air autour de chaque petit poil blanc dessinent une structure particulière pendant le vol en forme de donut, le beignet à trous. Impossible de ne pas y penser. En tout cas, la prochaine fois que vous soufflerez sur un pissenlit. Et on s'intéresse au Big Bang dans un instant. C'est le dossier de la tête au carré. Lighten up. Et c'était Parcells.
La tête au carré.
Le Big Bang n'a jamais été une explosion, en fait. Les 380 000 premières années de notre univers ne sont pas observables. Voilà, parce que pendant cette période, La matière et le rayonnement sont confondus en une espèce de bouillasse à très haute température. La lumière ne passe pas. Voilà, on voit rien. Alors, qu'est-ce qui nous reste? L'expérimentation, la déduction, la spéculation. Cependant, personne ne peut décrire avec certitude une naissance de l'univers. Et voilà qui me semble, à mon avis, largement aussi spectaculaire qu'une explosion. Nous n'avons peut-être pas d'origine. Mais bon, non, gardons les explosions. Allez, c'est bon. Badaboum, tout va bien.
Voilà Alexandre Astier avec son exoconférence et Jean-Philippe Puzan, notre invité, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de cosmologie et de gravitation. Vous travaillez à l'Institut d'astrophysique de Paris et donc vous publiez ce livre « Big Bang, comment comprendre l'univers ?» depuis ici maintenant aux éditions Flammarion. Petit décryptage d'ailleurs du sous-titre Jean-Philippe Puzan, parce que c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, il y a tellement de strates différentes que il faut regarder les choses aussi à la lumière du présent.
Non, c'est plus, on a eu cette petite citation là de l'exoconférence, Astier, ouais. On dit voilà, on sait pas s'il y a l'origine. Et en fait, ce que j'explique dans le livre, c'est vouloir commencer de raconter, entre guillemets, l'histoire de l'univers en commençant par le début est une très mauvaise chose. La cosmologie, ça commence par le fait qu'on est conscient que nous sommes ici, maintenant, aujourd'hui, à observer l'univers, et qu'à partir d'ici et maintenant, nous allons essayer de reconstruire dans le passé, comme notre ami archéologue le faisait sur Pompéi. Ouais. Et que, bien sûr, il y a peut-être un moment où cette explication va venir de moins en moins précise, parce qu'on va avoir, comme le dit Astier, moins d'observations, donc moins de choses pour construire cette représentation scientifique. Et peut-être qu'il y a aussi une limite dans ce qu'on est capable d'expliquer. C'était ça ce que j'avais envie de faire passer dans ce livre, c'était de dire on commence par regarder l'univers depuis ici, aujourd'hui, c'est une aventure humaine de comprendre, et on n'est pas là pour vous donner une histoire de l'univers avec un grand H. Cette histoire est en construction, des nouvelles découvertes ont régulièrement nécessité qu'on revoie un petit peu notre copie, qu'on crée de nouveaux chapitres, et que ça s'est fait dans le temps, ça s'est fait avec des êtres humains. Il y avait de la théorie et il y a aussi l'avance des observations parce que il faut se rappeler, c'est quelque chose de très important à garder en tête, même si on n'est pas du tout intéressé par la science, c'est qu'il y a un siècle, nous n'avions pas la preuve qu'il existe d'autres galaxies. Il faudra attendre 1924 pour ça. Aujourd'hui, on est tous baignés d'images avec des centaines de galaxies sur chaque photo où on voit leur morphologie, on les voit en fusion, on voit qu'elles ont différentes couleurs, différentes formes. Il faut se dire que ce savoir-là est très récent. Donc là aussi, donner le temps de la recherche parce que on parle de l'univers dans son ensemble et ça pose des problèmes. On est à l'intérieur de l'univers et on ne peut pas jouer avec d'autres univers pour le comparer. Donc vraiment, on peut questionner même la notion de la démarche scientifique habituelle. Jusqu'à quand est-ce qu'elle est valide dans cette approche-là? Et c'est ce que j'essaie aussi de faire, de donner des éléments au lecteur pour qu'il puisse jauger la particularité de la cosmologie en tant que science. Et il faut se rappeler que voilà, il y a un siècle, on ne savait pas ça. Donc là aussi, tout ça est une question de dynamique. Tout ça est une question d'échelle de temps. Et bien sûr, aujourd'hui, quand vous allez lancer un satellite, il faut bien penser que entre le moment où on a l'idée de ce que l'on veut mesurer et un cas scientifique et le moment où ce satellite existe est lancé et des données analysées, il peut y avoir plus, 10 ans, 20 ans, peut-être plus. Et donc voilà, tout ça, c'est important. Et à côté de ça, on a le plaisir, de temps en temps, d'avoir des coups de fil de vous ou de certains de vos collègues pour savoir, tiens, qu'est-ce qui se passe? On a lu que. Et comment est-ce qu'on réconcilie ces différentes échelles de temps, nous, chercheurs?
Parce qu'évidemment, le souci que vous avez, vous, en particulier, Jean-Philippe Puzan, c'est de pouvoir justement raconter quand même, donner un point aussi sur la connaissance aujourd'hui au grand public, dans un domaine qui n'est pas toujours très simple, d'ailleurs.
Voilà, tout à fait. Donc c'était un peu cette volonté, mais de ne pas simplement leur donner les clés de voilà l'histoire de l'univers, mais voilà quels sont nos efforts pour comprendre l'univers, voilà quelques erreurs que nous avons faites dans cette histoire, voilà où nous en sommes, voilà les questions qui restent sans réponse et auxquelles on peut espérer avoir des réponses, voilà celles qui sont peut-être un peu trop loin pour qu'on en ait dans les décennies à venir. Donc d'essayer de jauger la nature du savoir plutôt que le savoir lui-même.
Ouais, alors d'ailleurs vous dites, c'est étrange presque, parce que ce mot de Big Bang, tout le monde le connaît, c'est déjà beaucoup plus difficile d'en expliquer vraiment la théorie pour le profane, mais ça suscite des choses très disparates finalement entre le fantasme, la crainte, voire le dégoût. Qu'est-ce qui peut nous dégoûter dans le Big Bang quand vous employez ce mot-là exactement?
Il y avait par exemple, je pense par exemple à Arthur Eddington, qui est un des grands scientifiques du début du XXe siècle, qui a dit que penser qu'il puisse y avoir une origine à l'univers est quelque chose de répugnant. Voilà, parce qu'il y a cette... finalement, quand on arrive à ces questions d'origine, on est à la limite du discours scientifique. Il y a un moment où une théorie ne peut pas parler de sa propre origine. Elle est là, elle décrit le monde, elle nous permet éventuellement de remonter de plus en plus loin dans le passé. Et puis il y a un moment où on va trouver par exemple une singularité. qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la théorie qui se tait, comme Georges Lemaître nous le dit en 1931 dans son article sur l'atome primitif, et dire non, là c'est notre description de l'univers qui ne fonctionne plus, attention, ne confondez pas un phénomène physique et la description de ce phénomène, il faut vraiment faire attention à ça. Et puis certains, même comme Alexandre Friedman, qui a été un des pères de ces modèles du bien, on dit on voit l'origine de l'univers. Donc je pense qu'on a tous des attentes par rapport à ces questions d'origine.
Et puis il y a quand même un besoin d'explication, parce que sur les mots mêmes d'ailleurs, quand on entend origine, d'ailleurs on a presque envie de penser à un point de départ, au moment zéro des choses. Or ça fait partie des malentendus aussi autour de cette question du Big Bang. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Donc
on a parlé de l'avant Big Bang d'ailleurs avec vous dans cette émission.
On a parlé de l'avant Big Bang et on n'a pas eu de mal à en parler, même si c'est pas, on n'a aucune observation, on n'a aucune théorie sur le sujet. Et donc il faut se penser que ce Big Bang est quelque chose qui apparaît dans une théorie scientifique, donc un modèle cosmologique, quand on l'extrapole dans ses phases les plus primordiales, les plus ultimes, et là on voit qu'il y a une singularité, le temps et l'espace ne font plus sens. Et on se dit, c'est la théorie qui décrit, qui à ce moment-là n'est plus apte à décrire la nature, et on a plein de théories spéculatives, certaines vont vous dire il y a un rebond, certains vont vous dire l'espace et le temps étaient d'une nature différente, il y a une sorte de transition de phase, on a beaucoup de modèles. Alors là, c'est là où la difficulté se fait quand on communique, parce que si je vous parle de ce qui se passe il y a 5 milliards d'années ou 10 milliards d'années, on a des théories qui sont où tout le monde est à peu près en accord, qui sont sous contrôle, on a des observations, et il y a un accord communautaire sur certaines affirmations que l'on peut faire. Et là, quand je m'exprime en tant que représentant d'une communauté scientifique. Mais quand je vais décrire ces phases les plus ultimes, ou alors là, les spéculations foisonnent, eh bien, je vais vous dire, je crois plutôt dans ce modèle ou je crois plutôt dans ce modèle. Qu'est-ce que ça veut dire, ce je crois? Ça veut dire, je pense qu'il est intéressant pour peut-être créer une explication qui va survivre et qu'on peut-être un jour on pourra mettre à l'épreuve de l'expérience ou de l'observation. Mais comme ça foisonne, il y a des idées qui naissent, il y a des idées qui meurent, les gens ne sont pas d'accord et c'est normal. Et ça fait partie aussi de la science en train de se faire, le fait qu'il y ait un débat, que les gens ne soient pas d'accord et que des fois ça devient même assez virulent dans certaines conférences.
Alors, quand on parle des origines de l'univers et du Big Bang, quand on parle de ce 13,7 milliards d'années, presque 13,8. Qu'est-ce qu'on veut dire alors exactement? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Je peux pas vous dire ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc déjà, il faut dire.
Sur quoi on est à peu près d'accord au moins dans...
Alors que veut dire ce 13,7 milliards d'années déjà? Donc en fait, vous avez une représentation de mathématiques de l'univers. On a mis en évidence le fait que l'univers était en train de se dilater. Donc, si vous remontez dans le passé, vous allez voir un univers qui se contracte. En fait, en allant vers le passé, le film est vu à l'envers. Et jusqu'au moment où la matière est tellement dense, tout va tendre vers l'infini, il va y avoir ce qu'on appelle une singularité, une limite. Le modèle s'arrête en fait. C'est comme si l'espace et le temps disparaissaient. Et donc vous pouvez extrapoler votre modèle jusqu'au moment où ça arrive. Et comme vous l'avez calibré sur vos observations récentes, sur ce qui se passe il y a 5 milliards d'années, 10 milliards d'années, vous pouvez remonter comme ça. Vous avez des observations 370 000 ans après ce moment-là, cette singularité. Et donc vous allez remonter le plus possible. Et à un moment, vous allez aller laisser parler votre modèle jusqu'au moment où il ne veuille plus rien dire. Et l'âge dont vous parlez, c'est 13,7 milliards d'années, c'est cet âge-là. Ce qui veut dire que cet âge dépend de la construction dans son ensemble. C'est pas une mesure. Mmh. Personne n'avait une montre et a compté le nombre d'années qui s'est passé depuis.
Mais c'est ce qu'on a l'impression de voir. Finalement, voilà, quand on exactement. Donne cette date.
C'est ça. Et donc ça aussi, une des grandes difficultés quand on parle de l'univers, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est ici aujourd'hui. Donc toutes les distances, ce sont des notions de distance qui sont reconstruites à partir de certaines structures géométriques, à partir du modèle lui-même. Tous les temps que nous donnons, ce sont aussi des temps qui présupposent la validité de ce modèle-là. Ce qui rend les choses très difficiles, parce que imaginez que vous veniez demain avec une théorie alternative. Eh bien, vous ne pouvez pas utiliser ce 13,7 milliards d'années. Il faut que dans votre propre cadre de modèle, vous réinterprétiez les observations pour me dire, peut-être j'ai un univers qui a, je ne sais pas, un autre nombre de milliards d'années. Peut-être qu'on est capable de faire des univers où même cette singularité n'a pas lieu de façon simultanée. Elle a lieu à des moments différents dans différents endroits de l'espace. Et donc, tout est possible. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que vous allez chercher une cohérence entre tout ce que nous avons été capables d'observer jusqu'à présent, et ce nombre d'observations vraiment croît exponentiellement depuis quelques décennies, et la construction que vous allez être capable de faire. Car on ne peut pas interpréter les observations sans un cadre théorique. Donc, les deux se construisent ensemble. L'observation, la théorie, puisque l'un sous-tend l'autre et le second permet d'interpréter les premières.
Alors quand Alexandre Assier tout à l'heure vous-même parliez de 380 000 ans après le Big Bang, à quoi correspond justement cette date là aussi, ce repère en tout cas temporel?
Alors ce repère correspond au moment où de l'émission de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire que avant ces 380 000 ans, l'univers était tellement chaud et dense que les atomes ne pouvaient pas garder leurs électrons, ils étaient ionisés. On avait donc une sorte de plasma avec des protons, des électrons et tout ça baigné de lumière. La lumière interagit très très fortement avec la lumière, avec la matière chargée, ce qui fait que la lumière ne pouvait pas se propager librement.
Donc ça, c'est 380 000 premières années.
Voilà, l'univers est dans cet état de plasma chaud, très dense, très homogène, et à ce moment-là, la température de l'univers va être suffisamment faible pour que les premiers atomes puissent se former. Donc les protons vont s'apparier avec des électrons pour donner des atomes d'hydrogène, on a aussi un petit peu d'hélium, et donc l'univers va devenir transparent, ce qui veut dire que la lumière va être libérée, elle va pouvoir se propager, elle ne va plus être couplée à la matière, et c'est à partir de ce moment-là que la gravitation va vraiment pouvoir faire son effet structurant pour créer les choses qui vont devenir des galaxies ensuite et qui vont permettre finalement d'avoir les grandes structures que l'on voit dans l'univers aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fond diffus cosmologique, on l'a détecté pour la première fois dans les années 60 et il a été étudié mais de façon très très précise par plusieurs satellites, dont le satellite Planck, qui est une mission européenne, dans lequel la France, en particulier certains collègues de l'Institut d'astrophysique, ont beaucoup participé.
Avec cette image.
Hein, avec cette image. Voilà, elle a fait la une des journaux télévisés, tout ça. Donc tout le monde a vu cette image, même si quand on voit l'image, on ne sait pas trop ce qu'on est en train de voir. C'est un ovale rempli de points de couleurs.
C'est vrai.
Mais c'est vraiment l'univers il y a 380 000 ans. Quoi, il y a quand l'univers avait 380 000 ans.
Jean-Philippe Uzan, notre invité, Big Bang, comprendre l'univers depuis ici maintenant. C'est aux éditions Flammarion. À tout de suite.
On a déjà volé des nuits, on a déjà foulé l'ennui, sans s'ennuyer, toucher les cimes, on a déjà frôlé l'ultime, on a déjà vu la couleur, ce qu'on pourrait devenir, on a déjà posé des fleurs, alors on cherche déjà l'erreur, ce qu'il y a à redire sur ce foutu bonheur.
Déjà, c'était Holidays.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Jean-Philippe Uzan pour parler du Big Bang cet après-midi avec les questions des auditeurs nombreuses qui arrivent déjà sur le site de l'émission. Il y a Jean-Paul qui nous dit ceci, Jean-Philippe Uzan, la dénomination du terme Big Bang, est-ce que ça ne repose pas au départ sur un astrophysicien qui tournait en dérision ce gros boom? Ben oui, vous racontez l'anecdote.
Oui, tout à fait. On attribue à Fred Hoyle, qui était un astrophysicien brillantissime anglais, le fait d'avoir tourner en dérision ces modèles qui s'appelaient les modèles d'univers dynamique. et qui était à l'époque en compétition avec d'autres modèles qu'on appelait le modèle de l'état stationnaire, qui était développé en particulier par Fred Hoyle et puis Gold et Bondy, dans lequel l'univers se dilatait mais en restant identique à lui-même. Donc il devait invoquer une création de matière. Mmh. Et donc il y avait pendant dans les années 50-60 un débat entre les deux modèles, et c'est l'observation qui a permis de trancher en faveur de ces modèles d'univers dynamique, donc ces modèles de Big Bang. Mais le mot résonnait tellement en fait dans notre imaginaire.
Extra quand même, c'est une bonne idée. Hein,
c'est une bonne idée. Ouais. Et alors donc il y a une autre citation qui va à peu près. Donc c'est vraiment des émissions à la télé, à la radio, à la BBC dans les années 50 qui sont toutes enregistrées, oui, et qui ont été reproduites par écrit. Et il dit en fait la raison pour laquelle les scientifiques aiment le Big Bang, c'est parce qu'ils sont éclipsés par le livre de la Genèse. Donc oui, en fait il nous dit, si vous aimez ce modèle, c'est parce que vous êtes aussi vous en quête d'une certaine une quête des origines, et que c'est pas tout à fait scientifique.
Et Jean-Paul disait justement, est-ce que ça donne pas une image simpliste de ce qu'est le Big Bang, ce terme en lui-même?
Tout à fait, et c'est une des choses contre lesquelles, quand on fait de la diffusion des connaissances, on a à se battre, parce que les gens, beaucoup de gens, je vais pas dire tous, mais beaucoup de gens viennent là en pensant qu'on va révéler des choses sur l'origine de notre univers, alors que c'est la seule chose dont le modèle ne parle pas. C'est le moment où il commence à se taire. Et donc on a beaucoup de choses à raconter au niveau de l'astrophysique, l'origine de la diversité de la matière atomique. Pourquoi est-ce qu'il y a du carbone, de l'oxygène? Pourquoi est-ce que ces éléments existent? D'où viennent les étoiles? D'où viennent les galaxies? Comment est-ce qu'elles évoluent? Toutes ces questions auxquelles on a commencé à avoir des réponses. Et souvent, les gens sont plus intéressés par celle de l'origine. Mmh. Et c'est ça aussi. Donc, il faut faire comprendre que souvent, en science, on a des grandes questions. Et ces grandes questions, un certain nombre d'entre elles, et en particulier les questions d'origine, sont en dehors de ce que le modèle...
Donc, il peut y avoir un facteur un peu déceptif, quoi, finalement,
voilà,
pour les attentes.
Voilà, il faut
attentes,
être déceptif. Mais... Et ce que j'argumente aussi, c'est qu'il faut surtout pas être déçu, parce que en s'attaquant à ces grandes réponses, alors que c'est quelque chose, peut-être un but inaccessible, sur le chemin, on ramasse énormément de pépites. Mmh. Je veux dire, avoir compris pourquoi il y a tous les éléments atomiques qui composent le tableau de Mendeleïev, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Connaître leur site de formation, connaître l'évolution des étoiles, savoir qu'elles vont former ces trous noirs qu'on est capable de détecter aujourd'hui. Donc voilà, on a compris comment l'univers se développe, se structure, et c'est déjà énorme.
Et donc vous rappelez que finalement, le Big Bang, c'est pas un modèle, mais c'est plutôt une famille de modèles qu'il faut accepter de prendre tout ça ensemble. Hein.
Voilà, tout à fait. Donc pour faire un très très court, juste la ligne directrice, dans les années 1920, après qu'Einstein ait publié sa théorie de la relativité générale en 1915, on se dit, mais finalement, c'est quoi la structure de l'espace-temps qui décrit notre univers? Et on va avoir d'abord, pendant une quinzaine d'années, des gens qui ne font que de la relativité générale. Donc là, c'est plutôt des mathématiques. Ils cherchent des solutions d'une théorie mathématique compliquée. On met pas la matière dedans. Et puis, dans les années 30, on commence à s'intéresser à la physique nucléaire. On se dit, mais attendez, si l'univers se dilate dans le passé, il est plus chaud, nanana... Les atomes ne peuvent pas exister. Donc, ils mettent la physique nucléaire, la physique atomique, et ils comprennent un peu ce qui va se passer à ce niveau-là. Et puis après, on dit, mais attendez, là, on n'explique pas les galaxies, on n'explique pas les étoiles, les structures. Et ça, ça va commencer dans les années 60-70. Et on va être, c'est là où la cosmologie va vraiment prendre son essor. On va avoir le développement de grands projets observationnels pour cartographier la distribution des galaxies. Ça va être le début, dans les années 70, des simulations numériques pour voir si la théorie reproduit ce qu'on est capable d'observer. Et puis ensuite, on va se dire, mais alors, et avant. Et là, on se rend compte qu'il faut prendre en compte la mécanique quantique, qui a été, dont les premiers pas sont au début du XXe siècle, mais dans ce cadre cosmologique. Et dans les années 80, on va commencer à avoir une nouvelle strate pour aborder, en fait, l'univers encore plus primordial.
Ouais, et alors ça, justement, on se l'autorise aussi, parce qu'il y a une certaine difficulté aussi à aborder l'avant Big Bang, même si ça intéresse les gens, comme Betty, par exemple, qui nous dit, pourquoi est-ce qu'on en parle si peu? Personnellement, la question d'avant m'intéresse autant qu'après. Sauf que, avant, c'est très difficile d'en parler quand même.
Non, moi, je suis complètement d'accord avec Betty, c'est hyper intéressant. Mais on a peu de choses à dire, et comme tout à l'heure je l'expliquais, il va y avoir un foisonnement d'explications, chacun venant avec son modèle, parce qu'on est dans l'extrapolation de ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on peut pas arriver et en parler au public de façon saine en disant voilà, c'est comme ça. Et la première chose, avant d'expliquer ça, quand on est enseignant, on a toujours ça à l'esprit, avant d'expliquer quelque chose, on ne veut pas semer dans la tête de ceux qui vous écoutent des idées fausses ou des idées qui pourraient s'avérer être fausses ou vous polluer. Et donc on parle peu de l'avant Big Bang parce que pour l'instant c'est en dehors du champ scientifique.
C'est ça.
Ça fait partie du champ d'exploration que les scientifiques regardent aujourd'hui, mais il n'y a rien qu'on en puisse affirmer de façon communautaire et un savoir que l'on puisse léguer au public en disant voilà, avec cette certitude-là, l'avant Big Bang, c'est ça. Ouais.
Alors, dans le cadre scientifique, justement, on y revient, Jean-Philippe Puzan, qui était Georges Lemaître exactement? Qui est ce personnage?
Ah,
et quel rôle a-t-il joué, évidemment?
Donc on le considère aujourd'hui comme le père du Big Bang. Et Georges Lemaître est un scientifique belge qui était aussi chanoine. Donc il avait ces questions d'origine étaient très très importantes aussi pour lui. Et au moment où on commence à regarder un petit peu les conséquences de la théorie de la relativité générale pour notre univers, Einstein fait un premier modèle dans les années 1917, et puis ensuite c'est Alexandre Friedman en Russie, puis Georges Lemaître qui vont se rendre compte que l'univers doit se dilater, l'espace doit se dilater.
C'est l'expansion de l'univers, c'est ça ?
L'expansion de l'univers. Alors ce qui est important avec Georges Lemaître, il y a beaucoup de choses importantes, c'est un grand grand personnage, c'est le premier à se dire si l'expansion de l'univers est un fait physique, comment la mettre en évidence, et c'est lui qui va comprendre le lien, ce qu'on va appeler plus tard la loi de Hubble, qui sera établie 1929-1931 par Edwin Hubble, il la comprend dans un article qui est publié en 1927, et puis surtout il a cet aspect très clair, il dit attention, il ne faut pas confondre la science et la croyance. Il a cet aspect très discordant. Il va avoir une controverse avec le pape Pie XII qui va s'exprimer, je crois que c'est en 1952, disant que...
Et il est chanoine. Hein.
Et il est chanoine. Ouais. Parce qu'il sait très bien que c'est mieux pour tout le monde, en fait, de faire la distinction entre ce que la science dit du monde et puis ce que d'autres approches peuvent dire du monde. Et ça, c'est aussi quelque chose de très très sain sur les valeurs de la science. Il a tout à fait conscience que survendre l'effet de la science pour promouvoir une idéologie ou une croyance est quelque chose qui peut se retourner aussi bien contre la science, finalement dévalorisant les choses qu'elle a vraiment prouvées. Et d'autre part, pour les gens qui prétendent que c'est... la science peut prouver qu'elle avait tort aussi.
Oui, oui,
et donc, si vous avez dit que votre idéologie, votre croyance est fondée sur ce fait scientifique qui se trouve par de nouvelles observations remis en cause, vous êtes aussi mal à l'aise.
Mais ça paraît tellement incompatible, au fond, d'être religieux et grand scientifique. Ben, il a prouvé que c'était quand même possible, finalement.
Oui, oui, et il a des très belles phrases en disant que ses croyances n'ont jamais affecté sa façon de faire de la science. Et c'est vrai, ses articles, si on ne vous dit pas ça, c'est des articles de scientifiques où il respecte la méthode scientifique et il dit réciproquement que ce qu'il sait de la science n'a pas eu d'influence sur sa foi.
On va écouter sa voix, justement, à Georges Lemaître. Alors, c'est un petit peu plus tard, dans les années 50, et c'est un enregistrement de l'Institut National de Radiodiffusion Belge, c'est l'ancêtre de l'RTBF.
Nous nous sommes rendus compte que le rayon qui caractérise la grandeur de l'espace doit, d'une façon ou d'une autre, dépendre de la matière qui occupe cet espace. Puisque tout change et évolue, il est vraisemblable que l'évolution de la matière a comme conséquence une variation de la grandeur de l'espace. Imaginons que le rayon de l'espace croisse avec le temps. Si on imagine trois phases distinctes, une première expansion rapide, cette première expansion est suivie d'une période de ralentissement, cette période de ralentissement, et nous le verrons en détail, d'instabilité, est alors suivi d'une reprise accélérée de l'expansion. Ce serait à cette troisième période que nous en serions actuellement.
Voilà la voix d'un grand, hein, Georges Lemaître en 1950. Vous voulez commenter ce qu'on vient d'entendre, Jean-Philippe Huzan ?
Alors, j'avais jamais entendu cet enregistrement. Moi, je trouve qu'il a un petit côté Louis Jouvet, quand il fait ses conférences.
C'est vrai,
devrait nous inspirer quand on fait des conférences, étudier un petit peu le théâtre. Et pour ceux qui veulent savoir de quoi il parle, en fait, il parle d'un des modèles qu'il avait développé, qui s'appelle l'univers hésitant, dans lequel, en fait, l'expansion se gelait presque pendant un certain temps. Et il défendait ce modèle parce que, à l'époque, on avait une estimation de l'âge de l'univers qui venait de la mesure de la constante de Hubble, et on avait détecté des objets qui étaient plus vieux que l'univers, que l'âge de l'univers. Et donc, ça posait un problème. Et il a proposé un modèle dans lequel, voilà, la phase d'expansion se ralentit pendant une période de l'histoire cosmique.
Quand il dit tout change et tout évolue, là, on est dans la cosmologie, mais c'est un terme, c'est quelque chose qu'on entend pour la biologie, évidemment. Donc, ça voudrait presque dire qu'il y a une sorte de loi universelle pour toutes les choses.
Je dirais pas qu'il y a une loi universelle, mais je crois que ce qu'on a appris en science en général, c'est que il y a des évolutions. C'est-à-dire qu'on va passer par différentes phases. L'évolution dont on parle ici, c'est plutôt une dynamique. Elle n'est pas, c'est pas une évolution au sens biologique du terme. Il n'y a pas de sélection, par exemple. Donc on n'a pas évolution-sélection pour dire pourquoi est-ce que certains phénomènes vont émerger. Mais ce que l'on a compris, c'est que l'état de l'univers, on va dire il y a 13 milliards d'années, était très différent de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'univers était trop chaud pour qu'il puisse y avoir de la matière, pour qu'il puisse y avoir des étoiles, des galaxies. Et donc c'était ça le problème. C'est que vous remontez dans le passé avec les lois de la nature pour vous dire voilà à quoi ressemblait l'univers quelques secondes après ce fameux Big Bang. il est très différent. Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, dans cette échelle de temps, vous allez trouver un univers qui ressemble à celui que nous observons? D'où vient la diversité de la matière? D'où viennent les étoiles? D'où viennent les galaxies? Et ça, il fallait l'expliquer.
Et justement, cette idée d'expansion de l'univers, au moment justement où le maître le propose, c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif finalement.
Et c'est complètement contre-intuitif.
Comment est reçue cette proposition alors de l'expansion de l'univers?
Je crois que au début, ça a été dans un grand silence. C'est-à-dire, il y a eu les relations avec Einstein qui, en 1917, avait fait un premier modèle d'univers qui, lui, n'était pas en train de se dilater. C'était un univers qui était statique. Et il avait toutes les raisons de créer un tel univers, puisqu'à l'époque, comme je vous l'ai dit, on ne savait pas qu'il existait d'autres galaxies. On mesurait les vitesses des étoiles dans notre galaxie. Elles étaient très faibles. Et puis, ils étaient les héritiers de la physique de Newton, dans lequel l'espace était quelque chose d'immuable. Donc, en science, vous faites pas de la révolution pour le plaisir de la révolution. Mmh. Vous changez les choses quand vous avez besoin de les changer, soit parce que vous avez des observations qui vous poussent à le faire, soit parce que les théories, en fait, vont rentrer finalement en collision et qu'elles vous demandent de revoir votre copie. Et en fait, la solution qu'il avait trouvée, c'était une solution particulière. Le maître et Friedman ont trouvé qu'il y avait toute une classe de solutions. Et c'est vrai qu'Einstein, au début, a été assez violent. Et ensuite, il s'est rendu compte que ces solutions existaient. Lui a arrêté de s'intéresser à la cosmologie après cela. Et pendant très longtemps, il y avait peu de gens qui travaillaient sur la relativité générale. C'est une théorie qui était très difficile. Il a fallu plusieurs décennies avant que, finalement, on se mette à travailler sur cette théorie et on n'avait pas d'observations. Mais on va dire que les observations vont arriver, parce que là, cette prédiction, c'est 1922 pour Friedman, 1927 pour Lemaître, et puis les observations de Edwin Hubble, c'est 1929-1931. Donc très très vite, en fait, l'observation de l'univers va nous amener, en fait, être en accord avec la théorie. Donc, là, c'est un cas assez intéressant d'une théorie qui voit plus loin que les gens qui ont créé. La théorie vous dit que c'est comme ça. Et il se trouve que vous faites des observations et que ça marche.
Jean-Philippe Usan est l'invité de la Tête au Carré.
Attention, la concierge se trouve actuellement dans l'escalier. Mais comme elle ne le sait pas, vous êtes prié de ne pas la déranger. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43. En provenance de Babylone, les quais seront encombrés de pendus, laissant claquer leurs mâchoires dans le vent. En guise de discours de bienvenue, en guise de discours de bienvenue, j'arriverai par l'ascenseur de 22h43 en provenance de Babylone. Je ne connaîtrai rien de tes habitudes. Il se peut même que tu sois décédé. Mais je demanderai ta main pour la couper. Mais je demanderai ta main pour la couper. Attention. Sur le palier numéro 2, l'ascenseur de 22h43 en provenance de Babylone est annoncé. Veuillez dégager le vide ordure, s'il vous plaît, et ne pas laisser les enfants s'amuser avec les fils à haute tension. Tout corps vivant branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43 et je viendrai relever le compteur de ton ennui. Il te faudra sans doute changer de tête et puis brancher ton cerveau sur ton cœur rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant.
Ah ça c'est une fin, hein. C'est en 1978, Hubert Félix Stéphane, l'ascenseur de 22h43.
La tête au carré, sur France Inter.
Le Big Bang, c'est selon notre cosmogonie standard. Des cosmogonies, il y en a d'autres. Les Grecs avaient une cosmogonie géocentrique. La Terre au centre de l'univers et autour, les planètes du système solaire, chacune fixée sur une série de sphères en cristal concentrique. Et sur la dernière sphère, la voûte céleste. Toutes les étoiles épinglées là-dessus comme un joli papier peint. Par souci de perfection, parce que le grec aime bien la perfection, j'imagine, ces sphères sont éloignées les unes des autres des mêmes distances qui séparent les notes de musique. Bien sûr, bien sûr. On a parfaitement le droit. En termes de cosmogonie, on fait absolument ce qu'on veut. Moi, je vais en faire une, d'ailleurs, à titre d'exemple. Donc, selon moi, la configuration de notre univers, de bas en haut, ce serait bun, ketchup, oignon, salade, steak, bun et, bien entendu, graines de sésame pour faire les étoiles. Voilà.
Voilà, c'était Alexandre Astier, Jean-Philippe Uzan. Apparemment, vous appréciez aussi, hein, finalement, l'humour pour parler du Big Bang. C'est une porte d'entrée aussi, hein.
Non, mais c'est une porte d'entrée, mais en fait, ça me fait sourire parce qu'il y a tellement de choses vraies, en fait. On pourrait discuter pendant des heures à propos simplement de cette phrase-là. J'insiste beaucoup, en fait, sur les différents sens de cosmologie. Je joue un peu sur je dis, il y a la cosmologie avec un petit c. Ça, c'est une branche de l'astrophysique, de la physique théorique. Et l'idée, c'est de reconstruire à partir des observations et des lois de la nature que nous connaissons, et bien, reconstruire cette histoire de l'univers. Avec toutes les limites qu'on va avoir, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On est pragmatique et on essaye de faire d'avoir une démarche scientifique. Et puis, il y a la cosmologie avec un grand C, celle que, faisaient les Grecs qui mettaient la perfection, que tout le monde a fait, que toutes les civilisations ont fait à partir du moment où on a levé les yeux et on a vu qu'on vivait sous ce ciel qui est quand même assez extraordinaire.
C'est aussi l'histoire de l'évolution de la pensée et la façon d'envisager ce cadre aussi de l'univers.
Exactement. Et en fait, les représentations, l'évolution des représentations de l'univers est quelque chose de très très intéressant parce qu'à chaque fois qu'on va comprendre un peu de mathématiques, à chaque fois qu'on va comprendre un petit peu de ce qu'on appellerait aujourd'hui de la physique sur la matière, on va changer cette représentation du monde. Donc on voit que c'est une aventure humaine. On voit qu'il y a un moment où on ne sait plus. Donc on peut inventer des histoires et moi je pars du principe qu'une grande société, une grande civilisation se repose toujours sur sa cosmologie et son anthropologie parce qu'elle nous dit finalement c'est quoi notre univers et quelles sont les relations que nous avons à notre univers et entre nous et que c'est important en fait qu'il y ait ce dialogue là. Et une fois qu'on est clair par rapport à ça, qu'on est clair sur ce que dit vraiment le modèle du Big Bang, alors on est complètement libre et je suis heureux que Astier cite la musique parce que on en avait parlé l'année dernière. C'est aussi quelque chose que j'aime bien faire, c'est-à-dire à partir du moment où on sait ce qu'on affirme, on a la liberté absolue de travailler avec des artistes, de faire de la musique et d'échanger ce savoir parce que chacun va avoir son regard sur l'univers et vous pouvez arriver avec votre regard de scientifique et dialoguer avec un artiste, un musicien et finalement d'avoir différents regards qui se croisent sans pour autant tomber dans le relativisme. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que en affirmant bien ce que dit une théorie scientifique, vous avez un garde-fou, vous gagnez en liberté et donc c'est aussi une nouvelle façon d'échanger ces questions-là avec le public et avec tous nos concitoyens, parce qu'on sait quelle est la base, et on ne tombe pas dans le relativisme, et ça c'est un garde-fou qui est très important, surtout aujourd'hui.
Jean-Philippe Uzan, récemment, on observe directement les ondes gravitationnelles, nos auditeurs ont entendu parler de ça évidemment, qu'est-ce que ça change par exemple dans le modèle décrivant le Big Bang? Alors voilà quelque chose de très récent, et ça participe aussi à l'évolution de ces couches là dont vous parliez tout à l'heure. Hein.
Voilà, tout à fait, donc on a eu la détection en septembre 2015, de ces ondes gravitationnelles. La conférence de presse avait lieu en février 2016. Mmh. Il y a eu un certain nombre de systèmes qui ont été détectés par les détecteurs LIGO et Virgo. Et aujourd'hui, on sait que ces ondes gravitationnelles existent. On sait quelles sont les sources de ces ondes gravitationnelles, donc des systèmes binaires de trous noirs dont on est capable de mesurer la masse ou des étoiles à neutrons pour le dernier système détecté. Et là, pour l'instant, c'est de l'astrophysique, on va dire. On n'a pas encore passé le flippant de dire quelle cosmologie on va faire avec ça. Mais pour autant, on peut commencer à le rêver, puisqu'on sait qu'on va avoir plus de détecteurs, puisque les détecteurs LIGO et Virgo qui sont arrêtés actuellement vont commencer à fonctionner. Donc, quelle question est-ce qu'on peut se poser? Eh bien, on pourrait se dire, mais par exemple, il y a tous ces systèmes qui forment des ondes gravitationnelles dont l'amplitude est trop faible pour qu'on les mesure, mais qui collectivement, et ça, il y en a des milliers dans chacune des galaxies. Est-ce qu'on va pouvoir mesurer ce fond d'ondes gravitationnelles dans lequel nous baignons? Alors ça, c'est la première question, c'est pour l'instant on n'est pas capable, on sera peut-être capable dans 15 ou 20 ans, mais quelles sont ses propriétés? Et quand on étudie ses propriétés, eh bien on se rend compte que on va pouvoir apprendre quelque chose sur la distribution des trous noirs, par exemple dans les galaxies, en particulier dans des galaxies de type galaxie naine sur lesquelles on a très peu d'informations en optique. Et donc on va avoir une sorte d'information complémentaire qui ne va pas dépendre de notre habilité à observer avec des télescopes ordinaires, avec la lumière, et qui va nous donner une nouvelle image de l'univers. Ces trous noirs, ils sont formés ils sont formés en fin de vie des étoiles, et donc ça va nous apprendre énormément de choses sur l'évolution des galaxies. Alors ça, aujourd'hui, on est dans la phase prospective de dire qu'est-ce qu'on pourra apprendre, à quoi va ressembler le signal, et éventuellement, dans 10 ans, dans 15 ans, et ça je peux pas vous dire dans combien d'années, on sera capable de le détecter, et cette nouvelle observable, eh bien, si elle est en accord avec tout ce qu'on a prédit, elle va renforcer la crédibilité du modèle standard. Et si jamais il y a un hiatus, eh bien, il faudra le prendre en compte et peut-être que ça emmènera à une reformulation du modèle.
Allez, les questions des auditeurs, il nous reste 5 minutes. Paul nous dit ceci, est-ce que la sérendipité s'applique au Big Bang, découverte majeure, accidentelle, point d'interrogation?
Je crois qu'on peut dire oui, puisque je vous ai dit, c'est la théorie elle-même qui a dit que l'univers devait être en expansion. Personne n'a voulu ça. Et c'est en regardant les équations, la théorie a parlé. Einstein n'a pas fait sa théorie de la relativité générale pour prédire les trous noirs, les ondes gravitationnelles ou l'expansion de l'univers. Il voulait simplement comprendre la gravitation avec certaines, disons que ça soit en accord avec la physique de son époque. Et puis la théorie a parlé plus loin que la personne qui a créé la théorie. Donc les théories parlent toujours plus. Il faut laisser parler les théories.
François demande, est-ce qu'on pourrait envisager le destin de l'univers comme une histoire sans fin, Big Bang, expansion, compression, Big Crunch, d'où nouveau Big Bang, etc., etc.
Alors ça, c'est un modèle qui était très en vogue à la fin des années 40. En particulier, Georges Gamow, qui est un des grands physiciens nucléaires, astrophysiciens de cette époque-là, avait ce qu'il appelait l'univers phénix. Donc on avait une sorte de Big Bang, l'univers rentrait en étant en expansion jusqu'à une expansion maximale et puis s'effondrait de nouveau sur lui-même et
rebondissait. C'est le Big Crunch, c'est ça, justement?
Voilà, ça faisait un Big Crunch et ça rebondissait. Et alors, aujourd'hui, on sait, étant donné ce que l'on mesure des paramètres de l'univers, sur sa quantité de matière en particulier, que ce n'est pas quelque chose qui va avoir lieu dans notre univers.
Michel demande, dans la mesure où l'âge de l'univers est fini, la vitesse d'expansion est finie, constante de Hubble, comment peut-on postuler que l'univers soit infini?
Donc voilà, là c'est, on va en revenir à cette différence entre les deux cosmologies. Donc Michel a tout à fait raison, ça veut dire que nous n'observons qu'une partie finie de notre univers. La question, est-ce que l'univers est plus petit que cette partie-là et se replierait sur lui-même? Une hypothèse qu'on avait étudiée à la fin des années 90, début des années 2000 avec Jean-Pierre Luminaire, Roland Lehoucq en particulier. Et on a mis des contraintes sur la taille de l'univers. On a montré que l'univers devait être plus grand que la taille de la taille de l'univers observable. On a même montré que s'il était en gros 20% plus grand que ça, on ne pourrait pas faire la différence par des observations entre un univers très grand et un univers infini. Mmh. Et ensuite se pose la question de savoir, et au-delà, vu que je ne vois qu'une petite partie de mon univers, est-ce qu'il est plus grand? Est-ce qu'il est grand et fini? Ou est-ce qu'il est infini? Et là, la question aujourd'hui, on ne peut pas la poser à partir d'observations. On a des arguments théoriques qui vont vous dire, qui favorisent des univers infinis ou finis, suivant ce qu'on va considérer pour la physique de l'univers primordial. Mais l'expérience, l'observation ne permet pas de trancher.
Et Jean-Louis qui demande, comment est-ce qu'on peut vraiment avoir une photo de l'univers 380 000 ans après le Big Bang? On parlait de Planck tout à l'heure, Jean-Philippe Usan.
Donc cet univers, la lumière que nous détectons aujourd'hui a été émise il y a 380 000 ans après le Big Bang. Et elle s'est propagée dans l'univers qui est principalement vide. Et de temps en temps, ça peut interagir avec le gaz chaud des amas de galaxies, mais c'est négligeable. Et on l'observe ici, aujourd'hui. C'est parce que nous sommes baignés, en fait, dans ce bain de lumière. Il y a des photons qui arrivent de toutes les directions et c'est exactement ce qu'a fait le satellite Planck il y a presque une dizaine d'années. Ouais,
donc de capturer ce long voyage.
Voilà. Fond, oui, ces photons, ce sont
les confins de l'univers.
Voilà, il faut imaginer que cette lumière a traversé l'univers pendant plus de 13 milliards d'années.
Ouais. On entendra parler du Big Bang Show également dans cet ouvrage.
Alors le Big Bang Show, c'est aussi une théorie scientifique. C'est celle des années, je veux dire, 40, où on commence à s'intéresser à ce qui se passe dans les phases primordiales quelques secondes, quelques minutes après le Big Bang, où l'univers est très très chaud, très très dense et qui va permettre de comprendre comment à partir d'un bain de neutrons et de protons, on va former les noyaux de deutérium, d'hélium, de lithium et d'être même capable de quantifier leur quantité. Et aujourd'hui de les mesurer, donc de vérifier que ce qui se passe, on va dire une fraction de seconde après le Big Bang, est en accord avec la théorie.
Tout ça est passionnant et bien ça sort chez Flammarion. C'est un ouvrage qui s'appelle Big Bang, tout simplement, comprendre l'univers depuis ici et maintenant, et que vous signez Jean-Philippe Uzan. Merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup Mathieu.
Et à bientôt.
Oui, j'espère, à bientôt.